Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission toute nouvelle, toute belle de la rentrée Tormentor Radio Show, puisque nous sommes de retour avec une belle interview avec Olivier Moreau de Imminent Starvation et une flopée de projets incroyables. On peut d'ailleurs en citer quelques-uns: Axiom, Cérébral, Stroboscopic Spiral, Urawa, Delta File, Torsion, Ambre, évidemment Imminent, Mirza avec John Silkehurst, Tricot Trio, voilà. Pour grosso modo un petit peu tous les projets dont on va aborder rapidement dans l'émission, parce qu'il y en a tellement. Bonjour à l'invité et à tout le monde.
Bonjour.
Alors, nous avons commencé avec une première section musicale où on avait du Delta File et du Torsion. On va pas commencer par Imminent. Normalement, on devrait commencer par Axiom, puisque c'est ça le premier projet officiel avec lequel tu as travaillé dès 91 avec Cédric Fermont, hein, aussi très connu chez nous pour une multitude de projets. Entre autres, comment ça s'est fait cette rencontre entre Cédric et toi? Vous habitiez le même coin, qu'est-ce qui vous a rapproché?
On a été avec Cédric, on se connaît depuis 50 ans. On s'est rencontrés à l'école maternelle à l'âge de 2 ans. D'accord. Donc ça fait très longtemps. Je veux autant dire aussi longtemps que je me souviens de Cédric. C'est connu, je dirais presque toute notre vie. Donc voilà, donc c'est avec le temps, on a fait une partie de notre scolarité ensemble jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis il a changé d'école. Moi, j'ai déménagé, on s'est perdu de vue quelques années et on s'est croisé une fois en rue par hasard et on commençait à discuter. Et on avait des goûts communs musicaux et de là est parti de s'échanger un peu des cassettes et des choses ainsi. Et puis à un moment, Cédric a commencé à faire de la musique de son côté, et moi aussi, et on a décidé de faire quelque chose ensemble. Voilà.
Et donc est arrivé ce projet assez multifacette, Axiom, hein, puisqu'il y a vraiment, chaque album est complètement différent. Ça va de l'indus rythmique très, très classique maintenant, enfin classique devenu en partie classique grâce à vous, entre autres, qui était à l'époque assez nouveau et qui a amené toute une nouvelle vague de sons, hein, cette espèce d'hybride technoïde et industriel. On va revenir un petit peu d'ailleurs sur ces amours-là. C'était difficile pour vous de faire un choix? C'est pour ça que c'est devenu un hybride, de faire un choix dans un style musical?
Non, pas vraiment. C'est un peu une évolution spontanée qui se fait au fur et à mesure de nos goûts, de nos envies du moment. Et voilà, il y a pas on se dit pas on va faire ça, ça et ça, et ça se fait spontanément. Voilà.
Bon, alors on va commencer par présenter les titres vite fait.
Alors, pour cette première partie musicale, on a écouté deux titres de Delta Files. Premier, Syndrome, qui est sorti sur Body Bags, sorti en 96 sur Reload Ambient en CD et double LP, et ressorti en digital en 2012 sur Atelier Tantac. Et Naufrage sur l'album Up Clank, sorti en 96 sur Reload Limited en 12 pouces et encore en digital sur Atelier Tentac en 2012. Ensuite, deux titres de Torsion avec El Mariachi Mecanico sur Dark Tattoo Satellites, sorti encore Reload Ambient en 97, double LP et CD, et Hush Hush en digital en 2012. Puis Wild Cooking, toujours de Torsion, sur l'album Jackson's Private Zoo, sorti en 1999 en 12 pouces chez Imen.
Ouais, une petite précision, pour le deuxième Delta Files et le deuxième Torsion, il me semble que ce sont plutôt des formats maxi. Et d'ailleurs, ouais, on peut déjà parler de Reload, puisque je pense qu'on n'y fera pas référence plus tard.
Le label de Sulfuric.
Oui, voilà. En fait, le Reload, à la base, il y avait Reload, qui était un label pur techno, qui était fait par Zino, Mark Van Kampenhout. Entre autres, Sulfuric sortait des disques assortis des Virtus sur Reload. Et à cette époque-là, c'était la grande époque de l'ambient qui était à la mode. et tout le monde se mettait à faire un peu, on va dire, des labels ambiants et des choses comme ça. Et il y a donc Marc Van Campenhout qui a demandé à Cyril Furet éventuellement, ou inversement, je ne sais pas exactement la cuisine interne, mais de s'occuper de sortir des choses, de trouver des artistes. Et c'est via lui que je suis, on va dire, arrivé sur Reload.
Ouais, c'est un label qui avait une belle réputation, un label techno, qui l'a encore d'ailleurs, dans les années 90, du moins, qui a été relancé visiblement en 2014 pour Reload.
C'est possible, possible. Je n'ai pas trop suivi, mais je ne sais pas. L'histoire, c'est que Reload était une subdivision de Big Time International, et Big Time International a, je crois, fait faillite à une certaine époque, et donc probablement après, il y a quelqu'un qui a récupéré le nom.
Donc on y retrouvera Torsion. Alors pour commencer avec Delta File, où on voit ton amour pour tout ce qui est break, rythmique syncopé, tout ce qui est un petit peu acid house, notamment chez Reflex ou Warp pour le plus connu. On y voit un certain amour et
oui.
Mélangé à ta sauce évidemment. Qu'est-ce que t'écoutes à l'époque ?
À l'époque, justement, j'écoutais beaucoup de ces choses, justement, on va dire, le Reflex, Warp, et aussi des trucs beaucoup plus techno, assez durs, acide-core. On va dire un peu la vague underground techno de l'époque. Il y avait ce côté-là, et de l'autre côté, j'écoutais des choses beaucoup plus industrielles, IBM. Donc en fait j'étais un peu entre les deux, j'écoutais des choses des deux côtés, et je pense que dans ma musique ça se ressentait assez fort. J'étais beaucoup plus sale, dur, industriel, noir que la plupart de ce qui se faisait, on va dire, chez Reflex par exemple.
Tout à fait. Et tu sortais en concert, tu nous avais dit quand on a fait l'entretien au mois de juin que tu allais en rave à cette époque, c'était à cette époque.
On va dire, dans la première partie des années 90, j'allais souvent, j'allais à énormément de concerts, on va dire ça c'était plus dans le milieu indus, gothique, IBM, rock. Et après après les concerts, j'allais souvent en soirée, dans les rêves, des choses comme ça. Donc je passais de l'un à l'autre. Et les deux ne se mélangeaient vraiment pas à l'époque. C'était vraiment des mondes clos, où il n'y avait absolument pas de transfert, rien du tout. Ou même de connaissance des milieux. Tout le monde restait de son côté.
Pour chez nous, ça a commencé avec Chaos, hein, on en parlait lorsqu'on a fait l'interview Chaos, ici même il y a un an déjà, maintenant, pas mal de nous. Hein. C'est un petit peu lui qui nous a amené ça, en tout cas pour Paris et la région Alsace-Lorraine, un petit peu tout ce mélange-là. Et puis il y a eu évidemment les labels ensuite qui s'y sont mis, notamment celui qui a sorti The Imminent Starvation, Enzen, avec son sous-label Imen, comme ça, qui à l'époque avait splitté en deux. Maintenant ça se ressent plus vraiment, puisque les deux labels sont beaucoup plus proches qu'au début, mais au début il y en avait un qui était nettement plus industriel et l'autre qui était plus Electronica, IDM, break.
J'en prends pour exemple la publication, mais ça on en reparlera plus tard, du Imminent Cask Strength, qui a été publié sur les deux labels, si je ne me trompe pas. Enzen et Imen.
Oui, mais en fait le premier Imminent, c'est déjà comme ça, la version CD était sortie sur Enzen, et la version vinyle était sur Imen. C'était d'ailleurs la première sortie de Imen, et le concept au début de Imen, c'était justement d'avoir un côté un peu plus techno et moins industriel. Et dans les artistes présents à l'époque, j'étais un peu un artiste qui évoluait déjà vaguement dans les deux milieux, et je pense que c'était une des raisons que Stéphane j'ai sorti, en fait tous les vinyles Imen sont sortis, Imen Starvation sont tous sortis sur Imen. C'était un peu un essai aussi de toucher un public un peu DJ. Le public DJ, éventuellement même avec des distributeurs différents et des choses comme ça pour Imen et Anzen.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est en partie toi, avec quelques rares pointures de ce label-là, qui ont amené un petit peu ce type de son qui s'est généralisé, qui maintenant coule de source pour les plus jeunes. Hein. Ils se rendent pas compte du chemin qui a été effectué en une trentaine d'années maintenant. C'est vrai que c'était complètement clos, comme le disait Olivier tout à l'heure. Ça a énormément changé. Maintenant, tout ça est un peu joint sous la même bannière de l'indépendant.
Je pense en fait c'est avec tous les genres musicaux. Elvis Presley était aussi un scandale à l'époque et était aussi dans un certain milieu, on va dire les Stones et des choses comme ça. Et maintenant c'est vraiment devenu très commun. Les choses avec le temps ont tendance, les choses on va dire un peu avant-garde ou même pas un peu choquantes sont avec le temps, tout le monde s'y habitue. La preuve, il y a du métal ou des choses comme ça, l'Eurovision, truc qui était aussi complètement il y a 30 ans, comment personne n'aurait imaginé une chose pareille. Donc en fait c'est un peu la même chose, les gens s'habituent à tout. Et on va dire l'aspect peut-être nouveau ou choquant, le côté choquant s'estompe avec le temps.
Ce qui est drôle, c'est de voir le temps qu'il a fallu à beaucoup de se rendre compte des passerelles clairement évidentes qu'il pouvait y avoir entre l'industriel et la techno, notamment la techno un peu plus dure, plus rythmée, qui était déjà présent en fait assez rapidement dès le début. Sans qu'il y ait de vrai mélange, même si on sait après coup que certains évoluaient comme toi d'ailleurs dans plusieurs milieux. Donc il y a eu quand même toute une mise en place qui permet d'amener aujourd'hui beaucoup plus facilement des tonnes de projets très récents, puisqu'il y a un retour aussi à ce type de son depuis quelques temps. C'est évident, je pense que ce qui fait aussi le désir grandissant pour certains d'avoir enfin un nouvel album de Imminente.
Oui.
Et là, à mon avis, tu dois être attendu au tournant.
Oui, j'ai l'habitude, ça fait déjà avec le précédent était attendu aussi depuis longtemps. Donc, je laisse le temps passer.
Justement, comment tu fais est-ce que tu as suffisamment de recul comme ça pour savoir où est-ce que tu vas aller ou tu te laisses emporter par la créativité?
Je me laisse, on va dire, aller. C'est quand je fais les morceaux, il y a des morceaux je sais qu'ils vont terminer éventuellement pour l'album. Là, j'ai des morceaux que je garde pour l'album. Et il y a d'autres morceaux que ça va pas. C'est pas ce que je veux éventuellement pour l'album. Même si je n'ai aucune idée de ce que l'album va être au final, il y a une partie des morceaux que je garde pour un album et d'autres qui terminent à la poubelle ou qui vont sur des compilations ou qui ne sortiront jamais, je ne sais pas, mais ou qui sortiront ailleurs sur d'autres. D'autres projets ou sur d'autres disques.
Je me posais la question en réécoutant un peu ta discographie, qui d'ailleurs a très peu vieilli. Hein. Moi, j'étais étonné en réécoutant Torsion et Delta File et Axiom, de me rendre compte qu'il y a certains trucs qui valent largement ce qu'on peut entendre qui sort aujourd'hui. Hein, et qui pourrait être...
Mais ça veut peut-être aussi dire que ce qu'on fait actuellement un côté très très vieux parfois. Il y a beaucoup de à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui sortent qui ont aussi un côté un peu old school. Pas tout, mais dans certains genres, je trouve ça sonne très old school.
C'est un petit peu avec la période actuelle du repli sur les valeurs, sur ce qu'on connaît déjà, la peur de l'inconnu, tout ça généré par des hordes de médias.
Je sais pas. c'est aussi peut-être devenu beaucoup plus difficile de faire quelque chose de neuf dans certains domaines, dans d'autres domaines peut-être pas, mais sans vouloir, il y a beaucoup de, on va dire, de choses qui sonnent, on va dire, nouvelles, qui sont dues entre autres à la technologie, et des types de production, de manière de faire les morceaux. C'est plus souvent de la production que de la composition même. Je sais plus ce que je voulais dire, donc voilà, c'est...
Ouais. Bah justement, c'est peut-être le moment de parler matériel. Qu'est-ce que tu utilisais au départ? Parce que tu nous avais dit, quand on a fait l'entretien, j'y reviens encore, au mois de juin, que tu n'avais pas forcément de matos pour faire ce que tu voulais. Je sais pas, moi, par exemple, avec Delta File ou Cerebral Stroboscopic Spiral, qui est resté anecdotique. Mais tu peux nous présenter un peu les projets que tu faisais avec Axiom, avec... déjà avec Delta File ou Imminent au départ, et qu'est-ce que tu utilisais, qu'est-ce qui les différenciait en termes de matériel et de moyens?
Mais je dirais, quand j'ai commencé, vraiment tous les débuts, c'était très 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 minimal. Donc je dirais les premières années, j'avais un sampler qui avait 4 fois une seconde de sampling, donc 4 samples. Donc c'est vraiment, tout était fait, le morceau complet était fait avec 4 sons. Donc il y a un Atari, il y a eu un peu plus tard, il y a eu un Atari, puis il y a un sampler plus puissant, et quelques effets et un synthé. Mais c'est, en général, ça c'est resté avec un ou deux samplers et un ou deux synthés et quelques effets. Et c'était plus ou moins la base de ce qui s'est fait. Je travaillais dans les années 90. Et avec Axiom, en général, on travaillait toujours chez moi, donc c'était avec mon matériel. Par contre, quand on travaillait, je travaillais avec John, souvent, à ce moment-là, on travaillait chez lui, et donc c'était un autre matériel. Et parfois, pour les concerts, des choses comme ça, on avait nos deux matériels communs. Mais en général, pour la composition, on travaillait chez lui. Et c'était aussi, on va dire, le matériel était tellement cher à l'époque. On avait 2-3 synthés maximum et un sampler, 2-3 effets, voilà, et un séquenceur.
Mais qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans les 10-15 dernières années au niveau technique?
Dans les 10-15 dernières années, pas grand-chose pour moi. Mais on va dire, en 2000, il y a l'arrivée de l'ordinateur qui a, on va dire, révolutionné un peu... Je crois pour à peu près pour tout le monde la façon de produire, même si c'est juste pour enregistrer, la post-production, les choses ainsi, il y avait beaucoup plus de moyens. Et de là même pour composer, c'est avec tous les outils software, ça a vraiment, on va dire, révolutionné. On n'était plus besoin d'avoir, on va dire, une grosse bourse pour pouvoir s'acheter toutes les nouvelles nouveautés. Nouveauté, oui, c'est un peu... Hein, mais toutes les nouveautés technologiques qui étaient impayables avant étaient tout d'un coup abordables, on va dire. Par contre, moi, actuellement, je travaille toujours avec on va dire, du vieux matériel. Pour les concerts, j'ai un ordinateur un peu plus récent, mais pour la composition, mon ordinateur, je crois, il tourne encore sur Windows XP. Je pense qu'il a 17 ans, 17, 18 ans. Et voilà, donc les softwares, c'est aussi tous des vieux softwares, et bon, je dirais ça fonctionne parfaitement. Et j'ai plus l'envie, en fait, de toujours avoir le nouveau plugin, le nouveau programme. Je trouve ça un peu épuisant, et d'aller se perdre dans les méandres de la technologie. Et au final, je trouve d'avoir un matériel plus minimal permet de rester concentré et d'avoir peut-être un mode créatif plus puissant. C'est de moins se faire guider par la technologie et plus par ce qu'on ressent.
Et moi, j'avais une question pour les fans d'Electronica, IDM et autres. Pourquoi il n'y a pas de nouveau Delta File? Ça fait un bout de temps qu'il n'y a rien qui sort. T'as plus du tout envie d'exercer dans ce créneau?
Si, mais bon, le Delta Files, en fait, les différents noms à l'époque, se sont parfois aussi faits pour des raisons, on va dire, de contrats et des choses ainsi, voire des questions de scènes différentes. Et je pense actuellement, c'est beaucoup moins important, voire c'est même plus du tout important. Donc Delta Five, je sais pas, j'ai refait quelques concerts il y a 4, 5, 6, 7 ans et j'ai fait des morceaux qui étaient effectivement plus lents, plus électronica, avec pas mal des acides, des choses ainsi. Et comme d'habitude avec moi, je ne les ai jamais enregistrés ou terminés, donc ils sont toujours là éventuellement à pouvoir être un jour qu'il se fasse quelque chose avec. Et voilà. Donc Delta Phase, on va dire, n'est pas mort, mais c'est un peu de, enfin, mis à moitié de côté.
Parce qu'en réécoutant certains de tes anciens morceaux, je me disais qu'il y avait des accointances évidentes avec un label basé en Espagne, Analogical Force. Qui était sidérant, on a l'impression même qu'ils se sont inspirés de certaines de tes prods.
Ah, je ne sais pas, je connais pas, donc il faut que j'écoute ça.
Alors c'est un ancien qui était chez Reflex et qui a monté ce label-là, à mon avis pas tout seul, j'ai pas toute l'info sur le label, mais qui sort essentiellement que des vinyles, il n'y a pas de CD. C'est plutôt des 12 pouces en maxi, mais de très très bonnes factures, probablement un des meilleurs labels dans le créneau, avec des beaux objets, des beaux vinyles, vraiment quelque chose d'assez qualitatif, et sur lequel en fait tu pourrais tout à fait officier avec certains de tes anciens projets, voire même avec certains axiomes, puisque dans axiomes, pas sur tous les albums, mais parfois on passe aussi par des phases un peu IDM, acide, même s'il y a, y a vraiment de tout. Alors là, axiomes, c'est un petit peu le projet qui est difficile à cataloguer, puisqu'il touche à tout en fait. Entre le premier et le deuxième album de axiomes, par exemple, ça pourrait être deux projets différents, tellement ils sont éloignés l'un de l'autre.
Oui. Effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui ont dû être déçus à l'écoute du deuxième album, mais ce qui nous a fait beaucoup rire, ouais. Ce qui nous a fait d'ailleurs beaucoup rire, mais bon.
Ah, mais c'est sûr que le premier étant très power noise dans le créneau techno-indus, bon, c'est vrai que le deuxième album, qui est par moments ambiant et très glitch, IDM, un petit peu Panasonic.
Collage aussi, non ? Il y avait beaucoup de...
Ouais, c'est très très minimal. Là, on se retrouve presque dans des trucs genre Raster Noton, tu vois, ce genre de... Enfin, je caricature, hein, évidemment, mais vraiment très très loin de l'album d'avant. Alors, c'est sûr que les fans qui voulaient quelque chose qui cogne, là, ils devaient être un petit peu perdus. Mais pour chaque album, ça fait le coup, hein. À chaque fois que découvre un nouvel axiome, je sais jamais où est-ce que je vais me retrouver, en fait.
Nous non plus.
Donc il n'y a pas de plan, c'est l'humeur du moment avec Axiom. Hein.
Voilà, mais d'ailleurs, c'est par exemple, ces deux albums, on va dire, c'est un peu ce que j'expliquais avant, c'est le changement de technologie avec l'arrivée des ordinateurs qui a vraiment, on va dire, tout changé. Et ça a aussi changé pour nous. On dit, bon, on va faire autre chose et... Et voilà, puisque on va dire le premier album avait un côté un peu très side project Dimension Starvation, ce qui avec le Ça ne nous rendra pas le Congo, c'est plus du tout le cas. C'est vraiment un projet, on va dire, à part entière. Il n'y a plus aucune référence avec Dimension Starvation.
Ah oui, on est d'accord. Là, on est vraiment très très loin. Et les deux derniers en date sont d'ailleurs là pour le prouver. On va justement passer une petite séquence musicale. Et puis on réattaque sur Axiom juste après.
Effectivement, une petite interlude consacrée à Axiom avec quatre titres. Le premier, Salve, qui vient donc du premier album Rictus, que nous avons évoqué, sorti en 1999 chez Anzen en CD, ressorti en numérique en 2012, puis POC sur l'album Va-t-il faire beau, sorti en 2002 en 12 pouces chez Anzen. Ensuite, on va écouter Vrispunt sur 10 Hymns for Sorbetière or How I Learned to Stop Roaring and Love the Freezer sur Anzen en numérique en 2012. Et pour finir, Le Serpent se plisse sur l'album The Smell of Lava in the Morning, Anzen 2014 en CD et numérique. écoutez l'émission Tormentor Radio Show. Nous sommes en compagnie d'Olivier Moreau, figure incontournable du rhythmic noise et des expérimentations électroniques, connu entre autres à travers ses projets imminents, Axiom ou encore Urawa.
On vient d'écouter ces quatre titres de Axiom. On voit bien très clairement, et c'est volontaire de ma part d'avoir pris quatre titres assez éloignés les uns des autres, et finir par ce serpent, le serpent se plisse, qui n'a plus rien à voir du tout avec, avec ce qu'on a pu passer plus tôt. On se rend compte de ce projet qui est vraiment protéiforme, qui nous amène un peu partout. On pourrait presque dire qu'il lui faudrait un label par album, tellement il est varié ce projet. Il y a quelque chose en chantier en ce moment? Vous avez une idée de la direction du prochain Axiom?
Non, pas vraiment. Probablement, il sera encore vaguement, parce que rien de fait, mais dans la même direction que les deux précédents. Donc sans doute avec du chant, mais bon, on verra parce que on n'a encore rien de commencé. C'est pas toujours facile de travailler avec Cédric dans le sens où il habite Berlin, j'habite en Belgique, et 4-5 mois ou 6 mois par an, il est en vadrouille. Donc c'est pas toujours évident de trouver des moments assez prolongés pour se voir et pour travailler. Et donc voilà, je sais pas, on verra ce que le futur nous donnera. À ce moment-là, on aura peut-être envie de faire autre chose je sais pas, on verra.
On va revenir sur Torsion parce qu'on n'en a pas parlé. Tu as fait d'ailleurs plusieurs projets avec John Silkers, qu'on connaît tous pour son projet Xingwheel par exemple, ou plein d'autres, puisque tu étais avec lui, tu es aussi avec lui dans Urawa, dans Collapse, dans Mirza aussi. Entre autres. Qu'est-ce qui, musicalement, vous a lié, en fait, John et toi ?
On écoutait un peu les mêmes choses. Et on s'est rencontrés parce qu'il a commencé un fanzine, Noyade Mécanique. Et bon, il déposait ce fanzine, c'était gratuit chez les disquaires. Et je suis tombé dessus et je l'ai contacté. Et de là, on avait les mêmes goûts musicaux, on allait ensemble en concert, et puis après un certain temps, comme on faisait chacun de la musique de notre côté, on a commencé à en faire ensemble. Et puis voilà, avec le temps, ça a évolué. Et à une époque, on habitait ensemble aussi, donc ce qui était d'ailleurs très pratique pour travailler sur des projets.
Vous avez monté Urawa en 95 ensemble, où il y a eu 3-4 albums.
Oui.
Il y a quelque chose aussi qui s'appelle Collapse, mais qui a fait l'objet simplement de quelques morceaux. Alors vous avez changé de nom juste après, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, probablement, le Collapse, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres groupes qui s'appelaient comme ça, et entre autres dans la même scène. Donc on a changé le nom en Urawa, et puis quand on est passé à Torsion, c'était pour des questions de contrat. Voilà, on a changé de label et des problèmes comme à peu près tout le monde avec KK Records, et on sortir le disque ailleurs, et on a changé le nom. Par la suite, comme on n'avait plus à ce moment-là de contrat avec KK, on a réutilisé le nom Urawa, mais pour des choses beaucoup plus ambiantes.
Oui, l'ambiance d'ailleurs, c'est quelque chose que vous partagez tous les trois, hein, puisqu'il y a ce projet Ambre en 98, qui est d'ailleurs la période, me semble-t-il, où vous êtes tous les trois dans le même bâtiment. Hein. Il y a en plus John a monté son Metark Studio, où il fait beaucoup de mastering, entre autres pour Enzen, mais une multitude de labels. Donc j'imagine qu'il y a une effervescence qui se crée lors de cette période-là. Quel souvenir tu en as, toi, de cette période ?
Pour moi, c'était aussi la période où Imminent Starvation a vraiment décollé, et où j'ai eu une reconnaissance internationale, et où j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de concerts à l'étranger, et avec d'autres projets, entre autres, et comme tu le dis, il y avait avec John ou avec Cédric, c'était pour moi la période où j'étais le plus actif, on va dire, jusqu'en 2003, c'est la période où j'étais le plus actif, et puis après, je suis descendu, je me suis un peu calmé, mais sinon, c'était une période, je veux dire, c'était très chouette, quoi. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré énormément de gens, il y avait beaucoup de possibilités. C'est l'explosion de beaucoup de scènes. C'était la musique électronique commençait à attraper ses lettres de noblesse aussi.
Oui, jusqu'à aller influencer les Américains et les provoquer un petit peu sur leur territoire, hein, puisque... Il y a eu après une vague de projets dans ce créneau Power Noise Indus Techno qui est venu des États-Unis, qui était massive. Et c'était un petit peu à l'origine de tout ça, hein, parce que il me semble que tu es un des premiers projets de chez Enzen qui fait des tournées récurrentes aux États-Unis. On te retrouve sur des affiches avec un peu tout le monde, que ce soit les Américains du coin ou... J'ai des affiches avec Nosex, c'est les débuts du projet, qui est une des premières signatures d'ailleurs de Enzen à l'époque. Avec PAL aussi, hein, puisque c'est ça, c'est les trois premiers, c'est ça, PAL, Imminent Starvation.
Et Synapscape.
Et ouais. Synapscape, ouais, exactement.
Et Sonar, Hypnoskull aussi. Ouais. Enfin, dire, il y avait 5-6 noms comme ça qui ont un peu été le fer de lance, en tout cas de Enzen. Il y avait aussi quelques noms chez Hans et Quinterkalt.
Oui, tout à fait.
Et voilà, c'était un peu ces deux labels-là qui avaient, on va dire, un peu le monopole de la chose. C'était pas toujours tout à fait exactement le même public, mais c'était quand même dans certains pays, en tout cas, c'était vraiment très très mix, les deux labels. On jouait souvent ensemble.
Non, mais, et en plus, surprenamment, c'est quand même partagé aussi entre la Belgique, des artistes belges, Hypnoskull, Sonar, Dirk Evans, et toi, et des artistes allemands, en fait. On n'avait pas grand chose d'autre.
Les Allemands, en fait, dans le Power Noise, sont arrivés en fait relativement tard. Ils avaient un hybride qui était plus proche de l'Indus conventionnel, on va dire. Et je pense, pour moi, hein, mais je peux me tromper, que c'est quelque chose de très belge, en fait, ce mix, qui a influencé y compris la France. Hein, UW, par exemple, qui sortait ce genre de prod au début, entre autres. Qui n'a pas fait que du micro-point, du Laurent Haut, etc. C'est vraiment inspiré de ce genre de choses. Chez nous, on avait Noise Museum aussi, qui était dans ce créneau-là, musical. C'est un petit peu le Enzen à la française dans les années 90. Et c'est Loïc Mata, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est venu derrière, pour moi, le tout premier, c'est très probablement Imminent Starvation, il me semble. Hein.
Ouais. Le premier, je suis pas sûr, mais bon, il n'y a pas de qui était le premier vraiment. Mais au final, il y a, bon, effectivement, dans les Belges, il y a Sonar, il y a Dive. Chose comme ça, mais c'est le côté techno, je pense, vient du, parce que la techno en Belgique a toujours été techno, ça s'appelait pas techno à l'époque, mais était toujours assez grande, importante, beaucoup plus qu'en France. Et c'est parti un peu, on va dire, de la vie quotidienne des gens déjà à l'époque. Et c'est, je sais pas, c'est peut-être ça ce qui fait que la Belgique a, en tout cas, à cette époque-là, même avec beaucoup de labels, on a eu une assez grosse influence, on va dire, un peu partout.
Bon, en musique électronique, la Belgique est quand même précurseur. 15-20 ans avant les Français, massivement. Il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à Front 242, mais...
C'est même... Parce que là, on parle de l'Allemagne, on parle de la Belgique, ou de la France, qui joue vraiment un rôle. Mais il y a aussi la Grande-Bretagne, et pour autant, des artistes anglais, il n'y en a pas.
Il y en a très peu.
Ouais. La scène belge est quand même à l'avant. Alors moi j'associe ça à l'EBM, évidemment, à la New Beat, et à la techno qui arrive naturellement en Belgique, et à la musique électronique qui arrive naturellement en Belgique, qui arrive moins naturellement, comme on disait un peu au début, ailleurs, quoi.
C'est parce que la Belgique aussi, une plaque charmante.
Oui, mais par exemple, en Grande-Bretagne, il y avait énormément de musique électronique, mais c'était beaucoup moins, énormément même, le Summer of Love, toute la techno aussi vient de là, mais ils avaient un côté beaucoup moins, on va dire, peut-être dark, dur. Que les Belges ou voire peut-être les Allemands. En fait, si on regarde un peu dans l'historique de la musique techno-industrielle, c'est assez bien basé en Belgique, Pays-Bas et certaines parties de l'Allemagne qui avaient un son assez dur et sombre.
Mais c'est vrai qu'il y a un franc long, bien speedy.
Oui, puis et plein de labels dont on a perdu les noms, mais oui.
Énormément. Ouais.
Il y a surtout toute la scène hardcore et gabber qui était quand même assez énorme aux Pays-Bas à l'époque.
Et toi, quand tu commences, par exemple, Imminent, l'idée de faire danser les gens donc sur de la musique dure. Enfin, l'idée est quand même aussi de faire quelque chose avec du groove, avec du rythme, à faire venir les gens sur le dance floor, sur le club. C'est aussi un peu l'orientation de Hanzen sur les années 90.
Pour moi, c'était pas vraiment de faire danser les gens, c'était plutôt de faire quelque chose de dur, d'agressif, et avec, on va dire, une ambiance derrière, en plus du côté dans ta face. Donc pour moi, c'était pour faire danser les gens, on va dire, c'était à la limite secondaire. C'était plus d'avoir un peu un côté agression.
Donc c'est instinctivement que par le biais technoïde, si je comprends bien, si j'essaye de retranscrire ça, c'est par le biais technoïde qu'arrive ce groove imminent, en fait, qui pousse les gens à danser. Parce que c'est souvent ce que le public reproche à l'indus première génération, qui est pas du tout dansant, difficile à passer en club, vraiment dans des soirées spécialisées. Alors que Imminent Starvation, on peut en passer dans des soirées techno. Ça paraîtra un peu agressif, mais ça passe sans problème.
Sans problème, je ne sais pas maintenant, peut-être, mais à l'époque, c'était quand même, je dirais, ça passait pas sans problème. Quand je jouais dans les trucs techno, on mettait toujours en fin de soirée, et t'avais quand même une grande partie de la salle qui était un peu perplexe ou qui s'en allait. Et ceux qui dansaient avaient peut-être pris trop de drogue, on ne sait pas, mais.
C'est probable. Les débuts, c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Il faut un certain temps pour appréhender. Il faut avoir les bases, au moins les codes des deux mouvements principaux. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose, comme tu dis, qui est très démocratisé, qu'on retrouve un peu partout à cette époque-là. C'est assez curieux. D'ailleurs, dans les premières affiches qu'on peut voir du début des années 90, très souvent, on retrouve Imminent Starvation sur les flyers. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça à Cannes, fin des années 90. En Belgique, évidemment, bon, voilà, c'est un peu plus facile. Mais aux États-Unis aussi, il y a eu d'ailleurs une vague, hein, puisque ceux qui faisaient des trucs un peu plus électro se sont mis à faire des trucs plus dans ce créneau-là. Prenons Pain Station qui est devenu Converteur.
Scott Sturgis.
Ouais. Qui est lui-même, par le biais de toute cette nouvelle vague qui venait d'Allemagne, a stoppé son projet, qui était d'ailleurs plutôt pas mal. Hein,
Converteur
Pain Station.
Et pour autant, Converteur, indépendamment, moi je l'aime beaucoup, mais on pourrait presque le placer comme un copycat d'Imminent.
Il a un côté beaucoup plus techno 4-4 que moi, par exemple.
D'accord.
C'est beaucoup plus, les rythmiques sont beaucoup plus, on va dire, directs. Chez moi, j'ai tendance à toujours un peu casser les rythmes. Et chez lui, il y a quelques morceaux comme ça, mais dans l'ensemble, il n'y a pas le kick de base 4-4. Et chez Converteur, par exemple, il y en a beaucoup plus de morceaux comme ça. Enfin, je trouve qu'on est assez différents.
Oui, je suis d'accord. Il faut dire que Scott, avec son projet Pain Station, il vient de quelque chose qui est très EBM, et qui est donc des rythmiques assez conventionnelles, on va dire. Alors que Olivier, il aime justement ce côté groovy qui est en fait...
Ce côté trois cassé, pattes, en fait, voilà. On va dire. Oui. Voilà. Ce côté... Pour casser un peu ce côté 4-4 qui est un peu, on va en une sorte de la tyrannie du beat qui est c'est vraiment ça, c'est une tyrannie ce 4-4, et donc un peu casser les rythmiques, on va dire, essayer peut-être de l'enrichir un peu plus ou de le rendre un peu plus à l'époque, en tout cas, plus dur, plus agressif, sans avoir des BPM plus élevés.
Alors, je reviens juste au public. À partir de quel moment, quelle année, quelle date à peu près, tu trouves ton public ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment un public qui vient pour toi. Tu fais les têtes d'affiche, évidemment, mais ça se passe un petit peu avant. Ça se passe au moment où tu signes chez Hansen.
Ça se passe après le premier album chez Hansen, qui était un peu le début du succès de Hansen, cette époque-là. Je veux dire, je suis arrivé au bon moment pour profiter, on va dire, de l'engouement et de participer à cet engouement pour ce genre de son. Et je dirais, c'est vraiment à partir de 97 qu'on va dire, il y a eu un public. Avant avec les Delta Files, ça restait quand même un peu assez, on va dire, assez underground et pour connaisseurs. Même si bizarrement en France, le Delta Files a eu un succès en France, beaucoup plus qu'ailleurs, mais...
Je me demande si c'est pas la montée Reflex, parce que en réécoutant le Delta Files, je me disais que ça aurait pu sortir chez Reflex.
À l'époque, on était fan de Reflex, on aurait aimé sortir des choses sous Reflex, mais au final, même en voyant les autres sorties de Reload, Ambient, je me dis que c'était quand même beaucoup plus sombre et beau, enfin assez différent de ce que Reflex faisait, même s'il y a énormément d'affinités. Et ce réflexe, bon, n'était pas, on va dire, à part un ou deux tiches, n'était pas, à part les Kinesthesia ou les Sahelope, étaient beaucoup moins industriels, peut-être, du moins que du Delta Files.
Alors, on va passer vite fait un petit interlude musical pour finir, puisqu'on avait commencé là-dessus, sur la période Axiom, avant d'attaquer réellement dans le dur. Puisqu'on va repasser sur Imminent Starvation. Alors je présente donc ces trois morceaux qui composent le passage musical qui vient. On commence par le cri du gecko, sorti sur l'album L'Avenir est un cerf-teint. Un cerf-teint, l'animal, hein. C'est un jeu de mots belge. Oui. Sorti en 2016 chez Enzen. Le titre suivant, c'est Who Will Control Us, titre du éponyme, puisque c'est le titre de l'album aussi, sorti sur Asie Audio en 2020.
Asile Audio.
Pardon.
Et il me semble que c'est un label d'Alsacien.
Oui, c'est un label français, oui. Voilà. Donc c'est Asile.
Et le dernier titre, c'est Superflu, Fuel Guide to Alien Planet and Other Disco Balls, sorti lui chez Audiophobe en 2022. C'est le dernier morceau de ce tunnel, et pas de ce passage musical, et pas le dernier album d'ailleurs, puisqu'il y a un album qui vient juste derrière. What?
Energetic Ocean. Light matter particles. Fifth state of matter. Quantum computers operating on the liquid light. Cracking any codes. Tracking you everywhere.
De retour dans le Tormentor Radio Show, nous continuons notre entretien téléphonique avec le maître incontesté des rythmiques techno-industrielles, Olivier Moreau. Et là, je vais en profiter aussi pour revenir un peu sur la dénomination, les intitulés de titres que vous donnez avec Axiom. L'avenir est incertain. Bon, je sais que ça ne nous rendra pas le Congo, c'est issu d'une émission de la télé. Mais il y a plein de choses comme ça.
Oui, même pas. Ça nous rendra pas le Congo. C'est une expression belge. Hein. Ah. C'est en faisant l'album, comme justement il était très différent et pas du tout, enfin très différent du précédent et pas commercial pour un sou. Quand on terminait un morceau, on disait ça nous rendra pas le Congo. C'est une expression. Bon, le Congo était une colonie belge. C'est une expression qui veut dire c'est pas en faisant ce genre de choses que on va réussir. Enfin, c'est pas en faisant ça que on va récupérer, on va dire la colonie belge. Mmh. Voilà. Donc en fait, c'est une expression belge. Mais il y a beaucoup de titres qui nous aident beaucoup rire. D'ailleurs, beaucoup de titres, c'est des belgicismes, ou alors des jeux de mots un peu stupides.
Il y a des contre-pétries.
Voilà. Aussi. En fait, avec Cédric, on aime bien rire et faire une musique sombre, mais bon, on n'est pas des gens très sombres. Et quand on fait nos morceaux, on n'est pas du tout des gens qui sont complètement, on va dire, dans un trip sombre. Non, on rigole, on boit du thé, on s'amuse. Et à l'époque, on trouvait qu'il y avait les milieux musicaux dans lesquels on évoluait, on les trouvait parfois un peu très sérieux, et on voulait un peu mettre une touche d'humour là-dedans. Voilà.
Comment vous travaillez avec Axiom maintenant? Comment tu travailles avec Cédric, puisqu'il est plus en Belgique?
Donc, on travaille toujours ensemble, c'est-à-dire on travaille jamais à distance. Donc, on était toujours à deux dans le studio, et soit on fait ça chez moi en général, ou si je suis à Berlin, on fait ça chez lui. Mais comme il est plus souvent en Belgique que moi à Berlin, en général, ça se fait ici. Donc voilà. Donc parfois il y a des périodes où on va pas travailler pendant, on va dire, 6 mois, 1 an, voire plus. Et puis, par exemple, il a du temps, il passe par ici et on va faire une séance de 2 semaines. Il reste chez moi 2 semaines et on travaille pendant 2 semaines tous les jours. En général, c'est vraiment bon. On a des séances d'enregistrement, parfois, on va dire, de 2-3 jours et parfois de 2 semaines. Et à part donc faire de la musique, on boit beaucoup de thé, on mange beaucoup et on rigole, on écoute de la musique. Donc c'est, on va dire, c'est les vieux potes qui se retrouvent, et qui accessoirement font de la musique en plus.
On pourrait citer dans la liste des titres humoristiques, bon, là je prends puisque je l'ai sous les yeux, l'avenir est incertain, Solidified Tsunami, la chute du guide téléphonique, enfin c'est que des grosses blagues en fait, systématiquement à chaque album.
C'est pas toujours des blagues, on va dire, c'est parfois des références ou des mots qu'on aime ou des phrases qui sonnent bien, genre le morceau qui est passé là, le serpent se plisse. En fait, c'est une grosse référence à John Carpenter, à Escape from New York, New York 1997. Le héros principal, voilà, Snake, bon, le serpent, et ce plisse, voilà. Donc, c'est, voilà, par exemple. Donc,
il faudrait le manuel, en fait, pour retrouver. Ça serait pas mal, ça, à publier, ça, un jour, hein. Les origines des... Parce que évidemment maintenant que je sais ça, je vais réécouter Le Serpent se plisse pour voir si j'y retrouve du John Carpenter dans l'esprit, voilà. En tout cas.
Voilà, il y en a un peu, mais pas trop. Mais un peu, il y a quand même. Mais
il y a le titre de l'album aussi. Ouais. Smell of lava in the morning. Bon.
C'est un peu l'expression de smell of napalm in the morning, qui est dans... Je sais plus si c'est Apocalypse Now ou Apocalypse, quelque chose comme
Apocalypse
ça.
Apocalypse Now, ouais, c'est ça.
Ah oui, donc beaucoup de références cinématographiques quand même.
Enfin, beaucoup, je sais pas, mais... Et par contre, les deux derniers disques, comme il y a des textes, on va dire, les titres sont un peu plus en rapport avec les textes, qui ne sont pas toujours non plus très sérieux, mais bon... quelques notes d'humour dans les textes ou qui parfois nous font bien rire quand on les fait, mais...
Oui, un humour qui colle avec sa période, hein, puisque File Guide to Alien Planet and Other Disco Balls, ça va un petit peu dans ce qu'on peut voir un peu sur tous les réseaux sociaux maintenant, la Terre plate, l'arrivée des le débarquement des Martiens, enfin des extraterrestres, enfin, tout ça. Il y a cet humour-là très décalé qui, à mon avis, devrait maintenant, pour beaucoup d'auditeurs, leur permettre de resituer et en réécoutant les morceaux de voir un petit peu cette autodérision et parfois justement juste une volonté d'amener un peu de déconne dans quelque chose de très sérieux. Il n'y a pas de fil conducteur.
Ici, un peu sur les derniers albums, il y a un peu là, dans le sens où les morceaux sont très électro et il y a un peu ces textes électro sont assez clichés dans l'ensemble. Ça va toujours, on parle toujours de robots, de voyages dans l'espace et de ce genre de choses. Donc, on s'est dit, bon, on va aussi faire prendre des textes comme ça, mais avec certains, avec quand même un côté peut-être. Un peu, on va dire, un peu dérisoire. Par exemple, il y a un des morceaux où on parle des toilettes de la station spatiale qui sont bouchées est un vrai problème, en fait, c'est les toilettes. Donc ça nous fait toujours beaucoup rire quand on entend le morceau. On parle des toilettes de la station spatiale internationale.
Il y a des émissions très sérieuses, en plus, qui ont été faites là-dessus, hein, pour expliquer comment ça marche.
Mais bien sûr.
Tellement c'est compliqué.
C'est extrêmement compliqué. Ça, d'ailleurs, ça les a mis dans la merde une fois parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des fuites et des choses comme ça. Ce sont des problèmes. La conquête spatiale, c'est le côté pas très glamour.
C'est ça. Ça et les repas qu'ils doivent avoir tous les jours.
Oh, ça va. Et les langes des astronautes et les choses comme ça.
Et comment vous travaillez, comment vous répartissez les tâches entre Cédric et toi?
Oh, on fait tout, enfin, il n'y a pas vraiment de tâches, c'est, on a un qui commence, l'autre continue, et ainsi de suite. C'est, comment on va dire qu'un appui d'inspiration, il passe le relais à l'autre et ça se passe quand pas mal comme ça, voire quand
c'est une partie de ping-pong
si
en fait.
S'il fait quelque chose et que je trouve pas ça bien, bon, je lui dis voilà. C'est donc en fait on est dans la même pièce la plupart du temps et voilà, il y en a un qui chipote et bon l'autre fait ses commentaires ou puis c'est à l'autre qui chipote. Ça se passe comme ça principalement.
Et d'où cette envie de rajouter de la voix? Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est apparu assez récemment, en fait.
Et ben, en fait, non, puisque sur les tout premiers axiomes, ceux qui sont d'ailleurs jamais sortis, on a fait en 90-91, il y avait de la voix. Et sur la première cassette, il y a eu aussi, je crois, un morceau avec de la voix. Et il y a quelques morceaux qui sont sortis sur des compilations, après début 90, qui sont aussi avec de la voix. Donc à la base, Cédric était le chanteur d'Axiom. C'est pour ça qu'il chante avec Axiom, puisque c'est, on va dire, c'était lui à la base le chanteur d'Axiom qui était, on va dire, en silence pendant 25 ans.
D'accord. Donc c'est une volonté ou c'est aussi pour faire passer un message ou raconter des histoires?
Non, c'est parce qu'on aime bien et que ça nous amuse et puis faire quelque chose d'autre. En fait, la voix change pas mal. Moi, on va dire, dans toute ma carrière, j'ai fait assez peu de morceaux avec de la voix. Et ça change pas mal, en fait, l'approche du morceau, du moins dans la structure et les choses comme ça. C'est assez différent. Donc, c'était un peu aussi pour nous, pour changer vers quelque chose de nouveau, pour s'amuser, puis parce qu'on avait envie. Il n'y avait pas de plan machiavélique derrière.
Et si je mets en parallèle Imminent, donc le travail en solo, et Axiom, qui est un groupe en fait, une collaboration avec Cédric, visiblement c'est plus facile pour toi d'aboutir à quelque chose quand tu es accompagné de Cédric que quand tu travailles tout seul.
C'est pas juste quand je suis avec Cédric, c'est avec quand je travaille avec quelqu'un. C'est quand je suis seul, c'est pour ça que je dis quand on travaille à deux, ou même c'était avec John ou avec d'autres personnes comme ça. Quand j'ai un moment où on va dire on va tourner en rond, peut-être quelque chose comme ça, là on peut donner le relais à l'autre et l'autre continue, tandis que quand je suis tout seul, je reste parfois comme ça dans une espèce de dans une boucle et je dirais que j'en sors plus. Et le fait de travailler avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre, effectivement, ça me fait travailler beaucoup, beaucoup plus vite. Quand je vois la vitesse où je travaille avec quelqu'un et quand je suis tout seul, mais c'est vraiment le jour et la nuit.
T'as besoin d'être mis sous pression, en fait.
Voilà un peu ça, oui. Je pense de mettre un peu des limites. Quand je suis tout seul, j'ai tendance à vraiment chipoter, à n'en plus finir. Tandis que quand je suis avec quelqu'un, je passe plus rapidement à l'étape suivante.
C'est ce qui a. Il doit y avoir un sacré stock de titres imminentes.
Non, pas spécialement. Mais non, je chipote. Il y a des choses, il y a des débuts, il y a beaucoup de choses qui ne terminent jamais. Enfin, que c'est juste des choses que je commence et que je. Ils vont le dire qui n'aboutissent absolument nulle part.
Il y a des trucs comme ça que t'as gardé, des morceaux que t'as jamais réussi à finaliser et qui restent dans l'ordinateur en se disant tiens, j'en ferai peut-être quelque chose.
Oui, il y a des morceaux parfois que j'ai commencé 10-15 ans plus tôt. Et je termine 15 ans plus tard.
C'est fou. Tu laisses jamais quelqu'un, une autre personne, avoir un regard, une oreille sur ton travail pour savoir où tu en es.
Si, je dirais, il y a. Si, parfois, oui, ça oui, mais bon, c'est.
Ça te suffit pas.
Le truc, c'est que bon, c'est. Il y a beaucoup de choses qui restent à l'état de loop et je dirais pour moi au-delà du loop, tu as le loop. Après l'étape quasiment pour la plus importante, on va dire, c'est la structure qui est aussi importante que les loops même. Et c'est d'ailleurs chez beaucoup de bon, il y a parfois des artistes débutants, des choses comme ça qui me demandent des conseils, me font écouter des choses, et c'est cet aspect on va dire structure, construction dans leurs morceaux qui en général c'est là que le bas blesse, et c'est cette partie que chez moi peut prendre des années et des années, pas parce que la qualité va être mieux après 10 ans, pas du tout, c'est juste je laisse le truc dormir pendant des années et puis je récupère ça et je rechipote et plusieurs, c'est pas trop mal, et bon, j'en fais quelque chose. Mais il y a aussi des morceaux qui se font beaucoup plus vite. Tout prend pas non plus une éternité.
Alors, on va justement attaquer musicalement Imminent Starvation, puisque c'est la première... le premier passage musical qui est composé donc de ce projet qui s'est raccourci avec le temps. Il y avait une raison d'ailleurs pour ça, parce que c'est toujours le même.
Oui, c'est... Il y a la raison la plus simple, c'est que à la base, quand Stéphane Hansen m'a contacté pour sortir le premier disque, moi j'avais le projet était mort et enterré, on va dire. C'était pour moi, j'étais occupé avec Delta Files et des choses comme ça. Et je dis, oh, je veux pas sortir sur ce nom-là. Il m'a dit, si, je veux le. Comme ça, tu es déjà un peu connu avec la cassette, les concerts, et tout. Je dis, ok, c'est bon. Et donc, déjà à l'époque, je voulais changer le nom. Et puis, avec le temps. Moi, dans ma tête, je disais jamais Imminent Starvation, c'est toujours Imminent, parce que Imminent Starvation, c'est à rallonge, c'est long. Sur les flyers, c'est chiant parce que c'est trop long, c'est un peu connoté, un peu comme ça, on va dire, métal, voire industriel. Et toutes ces connotations, tout ça, ça m'a énervé un peu. Et je voulais un truc beaucoup plus neutre. Et au final, quand j'ai, on va dire, avec la sortie de l'album Nord, j'ai dit voilà, je mets un terme à Imminent Starvation. Et voilà, ça devient Imminent, qui je trouve est beaucoup plus neutre et passe mieux et moins connoté qu'un Imminent Starvation qui donne un préjugé. Quand quelqu'un entend le nom Imminent Starvation, éventuellement il va déjà avoir un préjugé sur le genre de musique, tandis qu'avec Imminent, c'est neutre, beaucoup plus neutre. Les gens ne vont pas dire c'est un truc techno, c'est un truc hip-hop, c'est un truc ils savent pas, tandis qu'Imminent Starvation, ils vont se dire oh, c'est un groupe de metal ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est quelque chose de dark avec un nom pareil.
Voilà, c'est voilà. L'Imminent est beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus libre et on va dire un côté plus spontané, même dans le sens du mot. Enfin, me plaît beaucoup plus Et voilà. Mais je, par contre, Emilian Starvation, je n'arrive pas à m'en, pas dire m'en débarrasser. 25 ans plus tard, ça me colle toujours à la peau. Et les gens connaissent encore toujours mieux Emilian Starvation que Imminent, voire m'appellent encore Emilian Starvation.
Si je peux me permettre, c'est parce que les fans, ils sont un peu affamés. Et ils attendent le nouvel album.
Oui, tout à fait. Mais
oui, pourtant, mais bon. Imminente apparaît dès l'an 2000 avec le split avec Synapscape, la Screenwalking.
Oui. Screenwalking, oui.
Qui sort en 2000. Et c'est vrai que ça fait 25 ans maintenant. Je me demande si c'est pas dû au logo qui n'a pas changé. Parce que le logo, c'est toujours le I et le S, hein.
Oui, mais en fait, c'est un point d'interrogation. Mais bon, Stéphane a fait ça assez bien. C'est un point d'interrogation avec le point qui est déplacé.
D'accord. Bon, donc
voilà. Du logo.
Exactement.
Mais effectivement, avec le logo qui reste, on va dire, oui, le IS. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas un drame non plus. J'ai même déjà eu des idées de ressortir le Imminent Starvation pour peut-être un projet un peu plus, mais très 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 old school. Enfin, un peu comme la première cassette, quelque chose comme ça. Mais c'est juste resté à l'état d'idée. Mais bon, ça m'amuserait.
Ça pourrait marcher, ça. Hein. En ce moment, il y a un renouveau sur tout ce qui est un peu old school. Hein.
Alors, enfin, je vais être très insistant, hein, mais tant que tu as des choses à sortir, il n'y a pas de problème, tu le fais.
Oui, je sais.
Alors, je vais présenter quand même ces titres que j'annonce depuis déjà un bout de temps. Le passage musical que nous allons entendre est composé de 4 morceaux de Imminent Starvation. On commence par Afraid of the Dark, sorti sur Emergency Provision. Donc c'est de la cassette de 1993 qui est ressortie par Forced Nostalgia en digital en 2014.
Ressorti en cassette en
2014.
Oui.
Waouh.
Qui doit être disponible en cassette au départ et en format numérique pour ceux qui n'ont pas pu choper la cassette.
Qui doit être dans les deux compilations en fait qui contiennent les titres Archive 1 et Archive 2 là.
Aussi peut-être.
Bah, d'ailleurs c'est un des titres que j'ai choisi après puisque j'ai choisi Tense Music tiré de Archive 1 sorti en digital lui en 2008. Previously released on Crafty Moves Energy Records en 97. Donc ça, j'imagine que c'est d'une compile Energy Records.
Oui, et c'est là pour le coup, on peut en reparler. Mais en fait, Tense Music, c'est une reprise de Kraftwerk. C'était l'objet de cette compilation sortie en 97 sur Energy Records, Crafty Moves.
Ils ont fait une série de compiles comme ça sur des thématiques. Énergie, c'est toute une série.
C'était Sideline d'ailleurs, c'est Sideline qui avait fait cette compilation.
Ouais. Et donc ensuite on a Lost Highway 45, le titre qui à mon avis a été le plus passé lors de sa sortie et encore maintenant énormément, donc tiré de l'album Human Dislocation sorti en 97 chez Enzen, premier album et vinyle puisqu'il y a Human Relocation après avec des petits titres on va dire avec des bases communes puisque c'est souvent pas, je vais pas appeler des remixes mais des réinterprétations de certains titres, ce qui est le cas d'ailleurs pour Lost Highway 45. Hein. Et le dernier titre, c'est Ibsen, sorti de Ethyl 6 chez Imen Records en 98 et en digital en 2007. We'll be right back.
Nous sommes de retour dans Tormentor Radio Show pour la suite et la fin de notre entretien avec Olivier Moreau, alias Imminent.
On vient d'écouter la première période, donc les années 90, Imminent Starvation. On terminera avec les choses les plus récentes dont on va parler maintenant, puisque le dernier en date, Mitrality, sorti en cette année.
En février, je crois.
Début de l'année. Et qui nous a mis bien l'eau à la bouche. Alors moi, je dois dire, mais c'est dû à mon habitude d'écouter des longs formats, j'ai été vachement frustré parce que j'étais constamment obligé de le remettre au début.
Voilà.
Et ça, c'est difficile. J'ai pas encore pris le coup. Mais ça nous a, et on en a beaucoup parlé ici, on en a passé d'ailleurs, on en a parlé entre nous et à l'antenne, en se disant, tiens, peut-être qu'enfin on va avoir un nouvel album, puisque le dernier album solo, il date de 2009, et après, oui, c'est un split en 2017 avec Synapscape, donc c'est pas vraiment un album solo, même si...
Non, c'est une collaboration, c'est...
qui est une longue collaboration, hein, qui a commencé 17 ans plus tôt, 18 ans plus tôt, puisqu'il y a 4 maxi avec Synapscape.
Ouais.
On en parlait tout à l'heure, Screen Walking, The Incredible 3, The Revenge of the Incredible 3, The Return of the Incredible 3, et le dernier, qui est donc un album, The Humanoid Problems. Qui d'ailleurs, quel est ce problème dont vous parlez dans cet album ?
Oui. Ah, je ne sais pas. Ça sonnait juste très bien. Ça faisait un peu vieux film, titre de vieux film.
Noir et blanc.
Voilà, c'était un peu l'idée de base. C'était les vieux films de science-fiction.
Avec Synapscape, Philippe Munch et Tim Knipp, si je n'écorche pas leur nom. Le courant est vite passé. C'est des personnes avec lesquelles tu t'entends très bien.
C'est des amis et on se connaît depuis en fait très longtemps, parce que Philippe, je le connais depuis plus de 30 ans. Il faisait partie de l'organisation d'un festival qui était mon deuxième concert en 93 à Erfurt. C'est la première fois là que j'ai rencontré, ainsi que toute la bande de Fischart, enfin toute la bande de Bielefeld. Et puis voilà, voyez, après on s'est retrouvés chez Anzen, et je forcément à l'époque on a fait beaucoup de concerts ensemble avec Synapscape. À l'époque de la première tournée aux États-Unis en 2000, Stéphane Anzen nous a dit, oh, ça serait pas mal si vous faisiez un disque pour la tournée, pour vendre entre autres sur place. Et j'étais chez eux pour enregistrer. On a enregistré pas l'entièreté du disque, mais une partie, et voilà. Et je dirais que c'est à partir de ce moment-là où, personnellement, comme on a passé du temps en dehors, je veux dire, sinon je les voyais toujours, mais dans le cadre de concerts, mais là je les ai vus en dehors, qu'on va dire que l'amitié peut-être a grandi. Et puis voilà, le fait de faire une tournée de plusieurs semaines ensemble, ça crée aussi des liens. Et pour les disques suivants, c'est bon, on va encore faire quelque chose. Voilà. Et la trilogie des Incredible Three, à la base, ça devait être un disque, mais avec le titre, on s'est dit que ça serait pas mal d'en faire trois, et on a fait trois. Et maintenant, on a déjà parlé d'une suite, peut-être d'un nouvel disque, mais il n'y a pas de projet concret. Donc ça reste à voir. La prochaine fois qu'on se voit, on en reparlera peut-être.
Alors, il faudra sortir quand même un Imminent avant. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Ou faire dans la foulée, tu vois. Mais comme je sais qu'il y a des nouveaux morceaux en stock, qu'on entend aussi en live de temps en temps des morceaux qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de titre pour nous, qui restent inconnus.
Voilà, n'ont pas de titre pour moi non plus.
Et est-ce que dans ces titres que tu joues en live, il y en a quelques-uns que tu as déjà sélectionnés dans ta tête en se disant tiens, ça
peut être... Il y en a plusieurs. Et par contre, il y en a d'autres, je les joue, mais je pense pas que ça terminera dessus. Mais il y en a, c'est certain. Avec certains morceaux, je dirais que j'ai un feeling particulier, et de jouer les morceaux en concert, je dirais que ça permet aussi de voir comment le morceau passe. Et par exemple, avec le titre Mitrality, quand je jouais ça en concert, moi j'avais l'impression que ça c'est vraiment le morceau typique, type imminent. C'est, on va dire, c'est le, on prend pas ça comme morceau et pour expliquer à quelqu'un. Enfin, le genre de musique que je fais. Et donc, quand je faisais ce morceau, éventuellement, il était pour un album. On ne s'est pas retrouvé sur l'album parce qu'il se pousse. Mais voilà, il y a d'autres morceaux, quand je les fais, enfin, quand je les joue, j'ai cette impression, ça c'est bon, ça je garde, je mets de côté pour l'album. Et il y en a d'autres où je n'ai pas ce sentiment. Voilà. Et puis il y a d'autres morceaux qui vont se retrouver sur l'album et que j'aurais jamais joué qu'en concert, simplement parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas, on va dire, ils s'intègrent pas dans un set, soit parce qu'ils sont trop mous, trop lents. Parce que ça c'est aussi un peu le on va dire le, comme j'ai un peu cette réputation de trucs un peu durs qui fait danser les gens, c'est aussi ce que les gens attendent de moi. Et ce qui était, on va dire, avec quand j'avais fait la série de concerts avec les Delta Fights il y a quelques années, ça m'avait permis justement de faire d'autres morceaux, des morceaux plus lents, de les jouer aussi. C'était dans d'autres cadres, alors que dans un concert d'imminent, je peux pas aller commencer à jouer une demi-heure de morceaux mous, surtout quand je joue, si c'est en plein milieu d'une soirée, ou voir en tête d'affiche, en général, les gens attendent un truc un peu plus énergétique.
Donc ma question sur le retour de Delta Files n'était pas complètement dépourvue de logique. En fait, si je comprends bien, il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir jouer tous les morceaux que tu veux lors de tes sets en live.
Mais ça a été de tout temps, en fait. Plus ou moins, c'est que les morceaux un peu plus lents, ou on va dire mous du genou, voire plus ambiant, ça passe pas dans, je dirais, pour dans imminent, dans le cadre ou dans lequel je suis booké, en général ça passe pas. Ça a toujours été, c'était déjà le cas il y a, on va dire, dans les années 90, il y avait des morceaux, c'est quasi, j'ai joué quasiment jamais, ou je les jouais juste dans certaines conditions, dans certains festivals, quand on bouquait les choses ainsi, mais sinon c'est pas ce que les gens attendent. Et donc sur un disque ça passe, mais sur en concert, je sais, je joue les morceaux et tu vois, tout le monde attend en fait la suite, attend que ça démarre. Même si quand je construis un set, je commence toujours plus lentement, et qui est le faire, on va dire, le faire décoller, faire une espèce de progression. Donc au début, je peux éventuellement balancer comme ça un morceau, deux, mais bon, faut pas que ça s'éternise.
Oui, comme tu l'expliques très bien, en fait, les gens ont tellement assimilé imminente à quelque chose de rentre dedans, que s'ils ont pas leur dose, ils vont pas être
contents. Et t'enregistres tes lives ?
Absolument jamais. Je devrais le faire, mais je les enregistre absolument jamais. Mais je me suis déjà dit souvent, mais j'ai quelques lives des années 90, des enregistrements que j'ai de personnes qui m'ont filé, mais après, j'ai à peu près, je crois que j'ai pas d'enregistrement.
Ah, c'est dommage. Si j'avais su.
Je ne sais pas si c'est dommage, mais.
Si. Moi, je faisais ça souvent à une époque, il y a plus de 20 ans de ça, j'avais un petit mini-disque et je demandais toujours aux artistes s'ils étaient d'accord pour que je puisse me brancher sur la table.
Voilà.
J'ai quelques petites choses comme ça, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire le 21 juin parce qu'il y avait un très bon live.
Ouais.
Et t'en as pensé quoi d'ailleurs de ce 21 juin, hein, on le rappelle, c'était dans le cadre du festival de la musique électro-industrielle organisé par Julien de Silvergeist Maelstrom. Donc il organise ça tous les ans à peu près, ça colle à peu près avec la fête de la musique en France le 21 juin. T'en as pensé quoi de ton concert, du public, de la salle?
Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Là, c'est une petite salle, mais comme elle était, c'était bien remplie. Il y avait, une bonne atmosphère qui passait tout de suite avec tous les groupes. Et cette petite salle, entre autres, ça donnait un peu cette atmosphère des, on va dire, des années 90, peut-être. C'était un public qui, très réceptif avec tout le monde. Je crois que ça s'est bien passé pour tous les artistes. Moi, je me suis bien amusé. J'ai bien transpiré sur scène aussi. J'étais très content. L'atmosphère était bonne et j'ai revu plein de vieilles connaissances. Ça faisait quelques années que j'étais plus venu sur Paris. Et bon, ça faisait chouette de revoir un peu aussi tous ces gens.
Puis le cadre était très, très adapté puisque ça s'est passé au Cirque Électronique. Hein. Il y a cette petite salle, plus la partie en extérieur. Il a fait beau, il n'a plu qu'à la fin des concerts. Donc pour un été où on a eu quasiment que de la pluie, on a eu de la chance, oui. Là, pour le coup. Et ça se prêtait très bien. C'est vraiment le cadre et l'ambiance, tel que tu disais d'ailleurs, des années 90. Ça, c'était vraiment...
C'était un peu bon enfant. Ouais. Et je veux dire, c'est un peu vaguement dans un autre registre, mais c'était dans la scène. C'était un peu ambiance Machine and Face avec cette salle de concert et à côté un espace assez grand où il y a moyen de discuter. Et voilà.
De se restaurer, de boire un petit peu.
Voilà.
Non, c'est vrai que c'était un bon choix de salle. On va peut-être présenter les titres du dernier passage musical. Et puis on va commencer déjà par te remercier pour nous avoir consacré autant de temps, puisque c'est la deuxième fois. On le rappelle, on a déjà une petite interview vidéo qui sera publiée en début de semaine
prochaine, donc qui sera au moment où on va publier cette émission audio et qui sera diffusée à la radio. Elle sera déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Ouais,
voilà, ça, on va s'en servir comme teaser.
Comme teaser, c'est ce qu'on appelle le live report. Et merci Olivier encore pour cette seconde.
C'est
pour
ce moi qui vous remercie.
C'est un plaisir.
Ouais, c'était un plaisir de te revoir, sur scène, de reprendre une bonne claque, une bonne dose de imminente. Puis on espère ne pas avoir à attendre 10 ans de plus pour le prochain opus.
Moi non plus.
J'en mets toujours une couche, mais ça nous donnerait en plus l'occasion de te revoir passer dans le coin, parce qu'un album imminente, c'est obligatoirement des tournées qui s'enchaînent derrière.
Enfin, j'espère, mais je suis pas sûr que ça se passe encore comme ça maintenant.
Bon, si. T'auras un public peut-être qui sera un peu différent, puisque maintenant, on le remarque depuis pas mal d'années chez nous. Il y a toute une scène qui se dirige vers une scène qui est plus des organisateurs technoïdes, mais la scène technoïde, oui, entre guillemets, oui. qui ont fait. Il y a eu Orfix, il y a eu Minimétrique, il y en a toute une flopée comme ça qui se rapproche de cette scène-là, puisque c'est eux qui font les gros événements en Ile-de-France et même en France en général. C'est souvent des gros festivals. Qui dure plusieurs jours. Donc ça, c'est l'opposé de ce que tu as fait, ce côté un petit peu intimiste.
Oui, bien fait.
On était un peu tous en famille. Hein. La moitié des gens se connaissent dans ce genre de festival. On s'y retrouve tous avec plaisir. Puis il y avait une bonne affiche, hein, on n'en a pas parlé, mais il y avait Substantia, il y avait Lit et il y avait Isoloscope, hein, aussi la même maison. Enzel, donc une affiche cohérente et très agréable.
Très belle édition 2024 de la part de Julien.
Et Julien, on le remercie au passage d'ailleurs. Eh bien, en tout cas, merci pour tout, Olivier. On a été ravis de t'avoir
merci
avec
nous
ce soir. Et puis, je vais quand même indiquer les quatre morceaux sur lesquels on va terminer cette émission avec un peu plus de 24 minutes de son. On commence avec le dernier Imminent Starvation, donc Tentacle One sur l'album Nord, sorti en 1999, chez Enzen. Et ensuite, on attaque avec Imminente, tout court, avec Serax, Casque Straight, sorti en 2009, donc 10 ans tout rond après, et en vinyle aussi, chez Imen Records. Le suivant, c'est Strass, la version live que j'ai récupérée grâce à tes bons soins d'ailleurs. Archive tout de cette compilation où on a pas mal de trucs sympas à redécouvrir. Sorti chez Enzen, toujours en 2009. Ce morceau était sorti avant sur la compile Flickhouse du Machine and Fest en 2000, donc c'est une réédition parce qu'une décennie après. Et on termine évidemment par le titre éponyme qui nous a vraiment relancé dans cette aventure et qui nous a motivé d'ailleurs pour te contacter pour ces deux interviews. Le titre Mitrality du maxi du même nom, toujours chez Enzen, sorti en 7 pouces et en digital en février de cette année. Mitrality, donc Mitra du mythe et réalité ou
Oui, c'est ça, c'est le mythe réalité. Donc oui, c'est cet état entre le mythe et la réalité qui actuellement, je veux dire, dans les actualités est omniprésent. Qu'est-ce qui est encore la réalité ou un mythe, je ne sais plus.
Et je rajoute pour celles et ceux qui voudraient avoir encore du plus de musique de la part d'Olivier Moreau, puisqu'on n'a pas réussi à embarquer évidemment tous les projets, à passer tous les projets pendant cet entretien. Benjamin a préparé ce qu'on appelle un React, où on pourra avoir du Eliminant, du Ambre, du Torsion, comme on a eu, de l'Urawa, du Tricot Trio, etc., etc. Donc ça passera juste après le dernier tunnel et la fin de cette émission.
Oui, à peu près 100 minutes de musique supplémentaire. Made in Olivier Moreau. Voilà, et bien pour nous, l'émission se termine. On se retrouve très bientôt avec d'autres interviews. Notamment 100 ans de solitude, et puis ensuite on aura Métamite.
Merci Olivier encore une fois, à bientôt.
Merci à vous.
À très vite.
Au revoir.
Salut, au revoir à tous.
I'm